je crois que c'est là son secret, avoir traversé l'histoire avec sa grande hache dans la douleur, comprendre que l'histoire est tragique. C'est ce qui la rendait si précieuse par tant de crises. Nous avons besoin de femmes et d'hommes politiques conscients des souffrances humaines, qui savent que la politique consiste à éviter le pire et à protéger le grand nombre.
Sortant des camps de concentration, ayant vécu cette barbarie nouvelle, pire que toutes celles qu'on pouvait imaginer, j'ai tout de suite pensé. La seule façon d'éviter une troisième guerre mondiale, c'était de se réconcilier.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Des matins spéciaux consacrés à Simone Veil, mais il est 7h sur France Culture. Et voici le journal de Luc Chemla. Bonjour Luc.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. 1 milliard de dollars pour aider le Liban, c'est la principale annonce de la grande conférence internationale organisée hier à Paris. Sur place, la situation humanitaire continue de se dégrader et les hôpitaux sont saturés. Témoignage d'un médecin franco-libanais dans un instant.
Le programme des Nations Unies pour le climat tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont encore trop importantes.
Et puis le MEDEF veut, je cite, remettre de la rationalité dans le débat économique. Pour ça, il vient de lancer son propre front. Marguerite Caton, ce sera ensuite votre question du jour. Quelle est-elle ?
Nous parlons de l'IVG. Quel bilan de la loi Veil ?
Eh bien, réponse à partir de 7h15. Pas d'avancée diplomatique, mais une enveloppe d'1 milliard de dollars pour le Liban et son armée. C'est ce qu'il faut retenir de la conférence internationale organisée hier à Paris par le président Emmanuel Macron. 70 pays et une quinzaine d'ONG étaient représentés pour apporter du soutien au peuple libanais. Dans le même temps, les bombardements israéliens contre le Hezbollah ont continué ces dernières heures. D'épaisses colonnes de fumée étaient de nouveau visibles dans la banlieue sud de Beyrouth. Les autorités recensent 12 morts, dont 3 enfants, après des tirs dans l'Est. Un média d'État annonce, lui, le décès de 3 journalistes. Et au Liban, la situation est de plus en plus tendue dans les hôpitaux. Pour s'en rendre compte, témoignage ce matin d'un jeune médecin franco-libanais, habituel interne à l'hôpital Avicenne, en Seine-Saint-Denis. Il est à l'origine rentré dans sa famille au Liban pour les vacances. Mais vu la situation actuelle, l'homme de 28 ans a décidé de rester pour venir en aide aux patients. Sébastien Sambiron l'a rencontré.
Pour Mamad Kazal, le Liban n'est pas au bord d'une crise humanitaire, il s'y trouve déjà. C'est ce qu'il constate dans sa propre région, la plaine de la Beka, intensément bombardée.
Avec les malades et les blessés, les hôpitaux sont épuisés et saturés au maximum.
Avec pour conséquence de devoir renvoyer les patients chez eux bien avant que leurs blessures puissent être soignées.
Et c'est horrible parce que les gens, ils ont besoin de pansements, ils ont besoin des analyses médicales. Les types de blessures, c'est surtout des plaies, des fractures, traumatismes crâniens, des brûlures.
Mamad les soigne gratuitement, à domicile, avec les moyens du bord, car tout manque au Liban, déjà frappé durement par la crise économique.
Il y a des ambulanciers qui n'ont pas de matériel médical. C'est-à-dire qu'ils arrivent au lieu de bombardement, ils trouvent les blessés, mais il n'y a pas de bandage pour arrêter un saignement, par exemple. Ça, c'est horrible aussi.
Pas assez de pansements, de compresses, de désinfectants. Et dans cette région dont les routes ne sont plus sûres, pas de quoi gérer non plus le post-opératoire.
La plupart des pharmacies ici sont fermées. Les pharmaciens sont déplacés de leur domicile, etc. Et ensuite, le stock des pharmacies est épuisé parce que les distributeurs, ils n'arrivent pas à atteindre cette région-là. On a un besoin immense de médicaments.
Dans ce contexte, le jeune médecin salue l'arrivée annoncée de l'aide internationale avec malgré tout quelques réserves.
J'espère que cette somme, elle va atteindre les gens qui ont vraiment besoin. Et malheureusement, il y aura beaucoup de personnes qui essayent d'exploiter cette somme d'argent alors que les gens qui ont besoin de ces aides vont rien percevoir.
Et lorsqu'on lui demande si son hôpital francilien lui manque, bien sûr, répond-il, tout en France me manque, mais tout m'oblige aussi à rester au Liban.
Je peux pas travailler tranquillement en France alors que ma famille se fait bombarder tous les jours.
Le jeune interne s'envolera pour Paris dans une dizaine de jours. Je vais partir en larmes, conclut-il.
Le reportage de Sébastien Sabiron, le Liban et la conférence de soutien à Paris. L'un a d'ailleurs été question hier soir dans le Culture de l'Info, podcast à retrouver sur le site internet de France Culture. Une délégation du Hamas s'était hier en Égypte pour rencontrer les autorités. Un de ses représentants l'assure, il est prêt à une trêve à Gaza si Israël s'engage à un cessez-le-feu. De son côté, l'État hébreu envoie une délégation au Qatar pour négocier un accord sur Gaza impliquant une libération des otages. La situation au Proche-Orient, il en a été question au sommet des BRICS à Kazan. Le rassemblement des membres de cette alliance de pays émergents s'est achevé hier en Russie après 3 jours de rencontres et de réunions bilatérales. Pour l'occasion, une vingtaine centaine de chefs d'État, dont ceux de l'Inde et de la Chine, étaient présents, mais aussi le secrétaire général de l'ONU. Pour Vladimir Poutine, ce sommet est un immense succès. Mais faute d'accord, l'absence de décisions concrètes a aussi montré les limites de l'exercice, Sylvain Tronchet.
Vladimir Poutine avait l'air satisfait au moment de tirer le bilan de son sommet des BRICS hier soir. Et pourtant, le bilan concret de ces trois jours tenait en une phrase. Des délégations de 35 États ont participé à l'événement. En accueillant ce sommet, la Russie voulait d'abord envoyer une carte postale à l'Occident. De ce point de vue, c'est réussi. Poignée de main, embrassade, réunion bilatérale, Vladimir Poutine a mis en scène la moindre de ses interactions avec ses homologues. Il a fait durer trois jours un sommet qui aurait pu se tenir en deux, sous le regard de centaines de journalistes venus du monde entier. Mais il n'a rien obtenu de ses partenaires. Pas d'élargissement à de nouveaux pays, pas de mise en place d'un système de paiement entre États, concurrent du SWIFT, pas d'avancée sur une monnaie propre aux BRICS. Évidemment, ses hôtes ont eu le bon goût de ne pas trop parler de l'Ukraine, ne l'ont pas condamné, mais pas soutenu non plus. La Chine, l'Inde, le Brésil appelant même à la paix quand le président russe disait n'avoir d'autre horizon que la victoire. La diplomatie russe excelle à saisir les opportunités, à enfoncer et des coins dans l'ordre mondial, mais elle n'a pas de stratégie de long terme. Il restera de ce sommet une photo, celle de 19 chefs d'État autour d'une table.
Et pour certains pays, ce sommet était l'occasion d'intégrer les BRICS. C'était l'ambition, en tout cas du Venezuela, sans succès. Et son ministre des Affaires étrangères accuse le Brésil d'avoir mis son veto et dénonce une agression. Le Venezuela, où deux visages sont devenus cet été des symboles de l'opposition au pouvoir en place dans le pays, Maria Corina Machado et Edmundo González Urrutia, étaient respectivement chefs et candidats de l'opposition à la présidentielle de juillet face au sortant. Nicolas Maduro a finalement été déclaré vainqueur, une victoire contestée et non reconnue par exemple par l'Union européenne et les États-Unis. Trois mois après ce scrutin, ces deux personnalités politiques ont reçu hier le prix Sakharov, la plus haute distinction de l'UE pour les droits humains. Au Venezuela, Alice Campagnol, l'opposition se félicite de cette distinction.
Le duo Maria Corina Machado, la dirigeante, et Edmundo González, le candidat, a incarné pendant des mois l'espoir d'un changement de gouvernement pour des millions de Vénézuéliens dirigés d'une main de fer par Nicolas Maduro depuis 2013. Pour Juan Pablo García, membre du parti de Maria Corina Machado, exilé en Espagne, ce prix Sakharov a beaucoup de valeur.
C'est très important pour nous car cela permet aux gens de mieux savoir qui sont Maria Corina Machado ainsi qu'Edmundo González Urrutia, le président élu du Venezuela.
Pourtant, le prix a déjà été remis à l'opposition vénézuélienne en 2017 et la situation démocratique ne s'est pas améliorée, voire s'est empirée. Mais pour l'ex-député, le Venezuela a toujours besoin de ses soutiens à l'étranger.
Le Parlement européen doit continuer de mettre la pression jusqu'à parvenir à ce qu'Edmundo González soit investi président le 10 janvier prochain. Plus de pression sur tous les fronts à la Cour pénale internationale pour que justice soit faite, pour que les cas dans lesquels sont impliqués Maduro et ses complices soient résolus et les sanctions, elles, font partie de cette pression.
Poursuivie par les autorités vénézuéliennes, aujourd'hui Maria Corina Machado vit dans la clandestinité et Edmundo González Urrutia est en Espagne où il a demandé l'asile.
Et après avoir été distingué hier, Edmundo González Urrutia a remercié, je cite, « la profonde solidarité de l'Europe ». C'est un texte très attendu. Le plan national d'adaptation climatique doit être présenté aujourd'hui par Michel Barnier. Lancé en 2023 par le précédent ministre de la Transition écologique, il devait à l'origine être dévoilé à la fin de l'année dernière, avant d'accumuler les retards. Ce plan a pour objectif de présenter une série de mesures concrètes destinées à préparer la France aux conséquences du réchauffement climatique. C'est dans ce contexte et à trois semaines de la COP29 que le programme des Nations Unies pour le climat vient de sortir un nouveau rapport. Il tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme et pointe l'absence de progrès significatif sur un an, concernant notamment l'objectif de maintenir le réchauffement planétaire à moins de 1,5 degré. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre restent beaucoup trop élevées, Véronique Robert-Roth.
Entre les ambitions affichées en matière de réduction de gaz à effet de serre et la réalité, l'écart reste considérable. Loin de baisser, les émissions de gaz à effet de serre mondiales ont encore augmenté de 1,3% entre 2022 et 2023. Les Nations Unies prévoient un réchauffement de 3,1 degrés à la fin du siècle si les engagements climatiques définis par les États eux-mêmes ne sont pas drastiquement renforcés, avec des effets de plus en plus dévastateurs, alerte Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. continue.
Il existe un lien direct entre l'augmentation des émissions et les catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes et intenses. Partout dans le monde, les populations payent un lourd tribut. Des émissions records, ça veut dire des températures de l'océan encore jamais relevées, ce qui alimente des ouragans monstres. Les records de chaleur transforment les forêts en poudrières et les villes en sauna. Les pluies records provoquent des inondations bibliques. Le message de ce rapport est clair, on joue avec le feu.
Les 1,5 degrés à ne pas dépasser d'ici 2100, d'après l'accord de Paris, pourraient l'être au tout début de la prochaine décennie.
Et pour espérer maintenir le réchauffement planétaire sous les 1,5 degrés, il faut une réduction annuelle de 9% des émissions mondiales d'ici à 2030. Lui est une figure de la lutte pour la protection de l'environnement. Rémi Fraisse, dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, le jeune homme a été tué lors d'une manifestation contre un barrage à Sivens dans le Tarn. Il a été touché par une grenade offensive lancée par un gendarme. 10 ans plus tard, Sandy Dauphin, les mouvements de contestation écologistes sont toujours marqués par le drame.
Depuis Sivens, il y a eu Notre-Dame-des-Landes, Sainte-Soline ou encore l'autoroute A69. À chaque mobilisation contre ce que les opposants appellent les grands projets inutiles, le souvenir du jeune botaniste Rémi Fraisse, bénévole à France Nature Environnement, est omniprésent.
C'est clairement un trauma pour l'ensemble du mouvement social.
Sophie Olitreau est chercheuse en sciences politiques au CNRS, spécialiste des mouvements écologistes.
Ça a eu deux effets, c'est-à-dire peut-être de radicaliser les plus radicaux, mais c'est surtout parmi ceux qui étaient, dans le pacifisme, qui ont pu se poser des questions sur leur tactique, leur mobilisation. Moi, je l'ai entendu aussi dans des cortèges où on se posait la question sur aussi la tactique de la non-violence face à une répression qui paraissait démesurée par rapport à l'activisme.
Elle note aussi une intensification de la répression et un changement de vocabulaire avec le terme écoterrorisme.
Il y a beaucoup plus de procès. Il y a aussi des interdictions de manifestations, ils se sentent déjà un peu géricriminalisés avant l'acte. Surtout depuis les 3 ou 4 dernières années où ils sentent le crescendo, soit des intimidations, soit de la répression, soit de la surveillance.
Un drame comme Sivens pourrait-il se reproduire? On n'en était pas loin à Sainte-Soline, répond cette chercheuse qui étudie les mouvements sociaux depuis 20 ans.
Des rassemblements à la mémoire de Rémi Fraisse sont organisés demain dans le Tarn. En 2018, la justice a prononcé un non-lieu en faveur du gendarme qui a lancé la grenade.
7h12 sur France Culture, c'est la suite du journal de Luc Chemelin. Un nouveau front est officiellement lancé, il n'est pas politique mais économique.
Et il est l'œuvre du MEDEF, le Front économique, c'est son nom. Il s'agit d'un collectif qui va se réunir tout au long de l'année pour faire émerger réflexions et propositions autour des questions du travail, de la fiscalité ou de la compétitivité. L'objectif, Mathilde Carillou, remettre, selon l'organisation patronale, de la rationalité dans le débat économique.
Les récents débats en commission des finances ont affligé Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, qui regrette, je cite, le manque d'alphabétisation économique de la sphère politique.
Il y a des gens qui prétendent qu'on peut réduire le déficit sans augmenter aucun impôt, par exemple. Voilà, j'entends des trucs qui montrent qu'il y a des gens qui ne comprennent pas grand-chose à l'économie.
Le Front économique veut donc recentrer le débat sur l'essentiel, nous dit Patrick Martin, président du MEDEF, à savoir le décrochage de la France par rapport à la Chine et aux États-Unis.
Là où le débat est saturé par le sujet du pouvoir d'achat, je veux parler de compétitivité, je veux parler d'innovation, je veux parler de création de richesses, je veux parler de déficit.
À ses côtés, une centaine d'économistes, de think tanks et de chefs d'entreprise répartis en différents groupes de travail, production, innovation, réussite ou encore échange au sens intellectuel et commercial. Le tout sans idéologie ni tabou, insiste Philippe Aguillon.
On n'est pas en train de faire le programme du MEDEF. Nous, les économistes, on réfléchit sur certains sujets en toute indépendance.
C'est pas un programme, mais c'est du lobbying.
C'est pas du lobbying, non, il n'y a aucun lobbying là-dedans. On n'est pas payé, on n'est pas stipendié.
Un premier rapport est attendu à l'été 2025, mais le Front économique ne s'interdit pas d'accélérer les travaux si des échéances politiques venaient à s'imposer.
Et le Front économique souhaite établir une feuille de route dont pourront se servir les décideurs politiques. Un point sur la météo. 2 départements sont actuellement en vigilance orange pour pluie, inondation, le Var et le Gard. Orage à prévoir également dans les Bouches-du-Rhône et en Corse. Sinon, la France sera coupée en deux aujourd'hui. Un temps mitigé à l'ouest, soleil et éclairci à l'est. Les températures iront de 11 à 23 degrés. Je vous retrouve à 7h30 pour le journal de l'Écho. Mais avant cela, les matins de culture continuent avec vous, Guillaume.
Merci, Luc. Et comme vous le savez, nous avons décidé de consacrer cette matinale à une femme inspirante, à Simone Veil, à l'occasion de la parution d'un inédit. Simone Veil pour les générations futures, c'est aux éditions Albin Michel. Et dans quelques secondes, Marguerite Caton lui consacrera sa question du jour. IVG, quel bilan pour la loi Veil ? Et à 7h14, on a entendu déjà Simone Veil, mais pas encore son mari, Antoine.
Antoine, je précise, c'est monsieur Simone Veil, c'est ça.
Pareil. C'est ce qu'on dit parfois. Enfin, j'ai entendu ça un jour de la bouche d'un huissier aboyeur du ministère des Affaires étrangères qui annonçait les couples à un dîner. Et ça donnait en effet... Madame le ministre de la Santé, monsieur Simone Veil.
Alors,
je suis resté sans voix.
Vous êtes rentré quand même.
L'huissier est venu me voir pendant le dîner, il était rouge comme le homard. Il s'est penché vers moi, il m'a dit, monsieur le président, je suis désolé. Je lui ai dit, mon cher ami, votre avancement me paraît bien compromis.
Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
Marguerite Caton, je vous salue.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
Simone Veil et l'avortement ce matin.
C'est peut-être la loi phare des années politiques de Simone Veil à l'automne 1974. Elle est ministre de la Santé du gouvernement de Jacques Chirac. Elle fait adopter au Parlement la dépénalisation de l'avortement. Une dépénalisation qui ne doit pas, comme elle l'expliquera quelques mois plus tard sur France Inter, se substituer au contrôle des naissances. On l'écoute.
Avec... Le vote de la loi sur l'avortement, certaines femmes pourraient penser que c'est la solution lorsqu'on cherche à planifier les naissances. C'est pour ça qu'il est très très important maintenant de compenser cette idée qui s'est un peu trop répandue, et notamment chez les jeunes, que l'avortement peut tout résoudre. Quand on m'a demandé il y a quelque temps, est-ce que vous croyez que dans 6 mois, l'avortement sera partout mis en place et que dans tous les hôpitaux on pourra le faire, je dis, mais ce que je souhaiterais, c'est que dans 6 mois, il y ait très peu d'avortements à faire et que les femmes qui sont concernées aient entre-temps appris à utiliser la contraception.
50 ans plus tard, que reste-t-il de cette ambition ? Diffuser la contraception permet-il de prévenir les recours à l'IVG ? Ou s'agit-il de deux pratiques distinctes ? Pour en parler, nous recevons Sophie Godu. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, responsable du réseau d'accès à l'IVG Révo, qui travaille en Île-de-France. Que vous inspirent ces paroles de Simone Veil ?
Je pense que c'était une pensée... nécessaire, en tout cas d'exprimer les choses ainsi était nécessaire à l'époque pour que la loi soit votée. Il n'y a pas d'opposition entre la contraception et l'IVG, ce sont des choses différentes. Les femmes, dans leur grande majorité, ont toujours utilisé des moyens pour réguler leur naissance. Les couples et les femmes n'ont pas plus de 2 enfants ou de 3 enfants depuis le début du XXe. Voilà.
Le premier point qui m'intéresse, celui qui va nous guider pendant toute cette question du jour, c'est le lien entre la contraception et l'avortement. Spontanément, on penserait tous, et comme le dit d'ailleurs Simone Veil, que plus la contraception est diffusée, moins il y aura de grossesses non souhaitées et donc moins il y aura d'avortements. Aujourd'hui, Sophie Godu, est-ce qu'on peut considérer que l'accès à la contraception est plein et généralisé ?
L'accès à la contraception est globalement facile, surtout qu'il y a eu ces dernières années des mesures très favorables comme la gratuité des moins de 25 ans. Mais il n'y a pas de contraception sans échec. Des femmes très fertiles, il y a des femmes moins fertiles. Quel que soit le degré de couverture de contraceptif de la France, et la France est un des pays du monde où les femmes emploient le plus de moyens de contraception médicale, quel que soit le degré de couverture contraceptive, il y aura des grossesses imprévues et il y aura un besoin de soins d'avortement.
Mais pour rester sur cette question de l'accès à la contraception, donc vous avez mentionné la loi de 2022, gratuité pour les moins de 25 ans, est-ce que d'un point de vue des territoires, cet accès est équitable ? Est-ce que, je pense précisément aux Outre-mer, est-ce que l'accès à la contraception y est aussi facile qu'en France métropolitaine ?
Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'offre de soins en Outre-mer, j'aurais du mal à vous répondre. Très clairement, le taux de recours à l'IVG est supérieur dans les Outre-mer qu'en France métropolitaine.
Massivement, pour la Guyane notamment.
De façon très importante. Très clairement aussi, si on voulait que les femmes puissent être totalement libres de leur contraception, les femmes, les hommes, les personnes qui en ont besoin, ma foi, on pourrait par exemple mettre en vente libre les pilules microprogestatives qui ont 0 contre-indication. Des pays comme les USA l'ont fait. Et en France, l'idée que les femmes gèrent toutes seules leur contraception sans demander la permission à quiconque n'est pas encore rentrée dans les mœurs.
Donc on l'a dit, une contraception plutôt généralisée. Pour autant, ça n'a pas d'impact forcément sur le nombre d'avortements. Ce qu'on voit d'un point de vue historique, c'est que c'est assez stable, très stable même. 246 000 interruptions volontaires de grossesse en 1976, 243 600 en 2023, ce sont les données de l'INED. Donc depuis 50 ans, on oscille entre 26 et 28 avortements pour 100 naissances. Ce qu'il faut dire, Sophie Gaudieu, vous avez commencé à nous en parler, c'est que 72%, près de 3 quarts des IVG sont réalisés sur des femmes sous contraception. Comment comprendre ? Alors la contraception n'est pas efficace, pas autant qu'on le dit ?
Rien n'est efficace à 100%. Une pilule s'oublie, une grossesse s'installe à côté d'un stérilet. On a mal compté ces périodes de fécondité. Il n'y a pas... Et au fond, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que 243 000 femmes ont trouvé un soignant ou une soignante pour leur prodiguer les soins qu'elles nécessitaient. C'est ça qui est important.
Vos patientes, elles vous parlent de leur contraception ?
Bien sûr, on en parle. On en parle si c'est le temps pour elles d'en parler. Mais il ne faut pas corréler interruption volontaire de grossesse et contraception. Ce sont des choses différentes. Je vais vous donner un exemple. En 2023, on a un petit peu oublié une chose, qui est qu'il y a eu un taux de naissance le plus bas depuis les années 2010. Il y a eu 49 000, presque 50 000 enfants qui sont nés en moins par rapport à l'année 2022. L'augmentation du nombre d'IVG tourne autour de quelques milliers, moins de 8 000, dont 3 000 liés à l'allongement des délais. Tous ces couples, toutes ces femmes, comment ils ont fait pour ne pas faire d'enfants ? Ils ont utilisé une contraception. Les femmes et les hommes français utilisent massivement la contraception. Il ne faut pas mettre l'un et l'autre en balance.
Une autre donnée intéressante, Sophie Gaudieu, c'est l'âge des patientes. On entendait dans les mots de Simone Veil l'idée que ce sont des jeunes filles naïves et inexpérimentées qui sont les premières à avoir recours à l'IVG. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle.
Pas du tout. Il y a une baisse continue du recours à l'IVG pour les patientes mineures depuis les années 2010. La tranche d'âge qui a le plus recours à l'IVG, qui a le plus besoin de ce soin, ce sont les 20-30 ans, même les 20-35 ans, avec le recul de l'âge à la première maternité. Ce sont une période de la vie où on a une vie sexuelle active, qu'on espère heureuse, et où on est fertile. Et il y a donc des grossesses qui arrivent, quelle que soit l'efficacité de la méthode contraception choisie.
Et ça m'intéresse beaucoup, cette idée que ce sont surtout, alors vous dites 20-35, plus précisément, je crois vraiment, c'est les 25-29 ans qui ont le plus recours à l'IVG. Est-ce que ce n'est pas aussi un âge où le désir d'enfant est très désynchronisé entre l'homme et la femme ? Est-ce que vos patientes, elles vous parlent de leur compagnon ?
Alors, les femmes parlent de leurs compagnons ou pas. Certains hommes sont là et je dois dire que je pense qu'il serait de bon ton qu'on leur fasse un petit peu plus de place dans nos consultations. Mais pour eux, si, séparer les deux, au moment où la contraception masculine vient sur le devant de la scène, il est important de créer des lieux de parole et des lieux de prise en soin des hommes qui souhaitent prendre en charge leur propre fécondité et leur propre santé reproductive. Mais oui, les femmes... Enfin, oui.
Merci beaucoup, Sophie Gaudieu. Et je me tourne maintenant vers vous, Guillaume Herner, pour la suite des matins.
Merci beaucoup, Marguerite Caton.
Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
Les échos d'ailleurs. Il nous emmène aujourd'hui au Liban avec la romancière et essayiste Dominique Hédé. Elle nous parle des bruits de la guerre.
Selon Lisan el-Arab, l'encyclopédie de la langue arabe, achevée au XIIIe siècle, l'écho, c'est la voix de la montagne et c'est l'intensité de la soif. Le mot désigne également le corps de l'être après sa mort. Il est dit que lorsqu'un homme meurt, son écho se tait. C'est aussi l'intérieur de la tête. C'est le lieu de l'écoute dans le cerveau. C'est la durée d'un son ou d'un événement après qu'il ait eu lieu. On pourrait dire, par extrapolation, que la mémoire est l'écho du passé, sa seconde vie ou encore le désir d'en étoffer le sens. Les bruits qui dominent à l'heure qu'il est au Liban sont sans écho. Ce sont ceux des drones, des bombes et des ambulances. Tous ces bruits ont des retombées, mais des échos, je ne vois pas. À l'instant où j'écrivais ces mots, une bombe est tombée. Je me pose maintenant la question, quel a été l'écho de ce bruit à ton oreille ? Je n'en trouve aucun. Ce que je trouve n'est pas dans l'oreille mais dans le ventre. Qui sait le nombre de morts et de blessés ? Toutes les vitres ont tremblé. La peur est montée d'un cran. Une sensation physique de confusion entre vide et choc. Alors je me dis, peut-être que l'absence d'écho fait partie de la peur. Peut-être que la peur est le sentiment d'être sommé d'obéir et privé d'écho, de parole. La peur serait l'appel du vide en l'absence des voix de la montagne. Comment ne pas comprendre, en cette absence, que la peur et la haine soient si voisines, si contagieuses? Quand les villageois communiquaient d'un sommet à l'autre, ils se répondaient autant qu'ils s'appelaient. Il y a une notion de réponse et même d'invitation dans l'écho, une notion de trajet, de voyage, d'aller-retour. La bombe, c'est l'exact contraire. C'est un aller sans retour. C'est un ordre absolu. Le silence d'avant les bombes est revenu. Quelque chose a bruyamment frappé le sol. Je sursaute. À nouveau une bombe? Non, c'était juste un gland tombé du chêne qui est à ma porte. C'était l'écho de l'automne dans un arbre.
Les échos d'ailleurs, signé Dominique Hédé, romancière et essayiste libanaise.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La mort de Paul, vous savez, ce cycliste de 27 ans, écrasé par un automobiliste la semaine dernière à Paris, a forcé le gouvernement à s'intéresser aux violences motorisées. Des violences dénoncées depuis longtemps par la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Eva Kling a suivi Thibaut Quéré, son porte-parole.
Nous sommes la veille de l'annonce par le gouvernement d'une mission contre les violences routières.
Bonjour, je m'appelle Thibaut Quéré, je suis porte-parole de la FUB, qui est la Fédération des usagères et des usagers de la bicyclette.
Ce matin-là, Thibaut Quéré est attendu au bureau pour préparer son rendez-vous au ministère des Transports. Pour s'y rendre, il compte sur son vélo, qu'il décrit en détail dans notre portrait en longueur sur le site de France Culture. Il ne porte pas de casque sur ses cheveux blonds, malgré l'insécurité ambiante que sa fédération dénonce.
Moi, je viens d'une ville qui est dans le périurbain de Nantes. Maintenant, j'essaye de me déplacer à vélo là où j'ai grandi et je me rends compte de la marche encore énorme à faire avant de pouvoir y circuler en sécurité. Le retard, il est absolument gigantesque au niveau national. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se bat, nous, à la FUB, pour qu'on puisse donner à toutes les personnes le choix du vélo pour tout ou partie
de
leur déplacement.
C'est dans les rues de Couëron, en Loire-Atlantique, que Thibaut Quéré a appris à faire du vélo. Sa mère a failli abandonner l'idée de lui enseigner en voyant qu'il préférait être sur son porte-bagages. Pourtant, aujourd'hui, c'est devenu un adepte du vélo pour traverser Paris.
J'ai une pratique quotidienne qui me permet de me déplacer pour mes différents déplacements professionnels, beaucoup en lien avec le train puisque je me déplace en France. J'ai une pratique récréative, on va dire assez occasionnelle, des vacances à vélo, parfois le week-end, mais c'est avant tout pour me déplacer que j'utilise le vélo.
Mais il voit en lui plus qu'un moyen de transport.
Le vélo est un outil politique hyper intéressant en matière d'émancipation des personnes. On a tous un grand souvenir par rapport à la première fois où on a fait du vélo et que je trouve que le caractère universel de ces souvenirs-là, il a une puissance politique hyper intéressante pour voir comment dans tous les champs de l'éducation, des transports, de la sécurité routière, comment le vélo apporte une part de la solution et comment reconstruire des vies autour et des modes de vie autour du vélo qui soient plus plaisants, plus agréables et plus écologiques.
Après ses études en sciences politiques, c'est à la Fédération des usagers de la bicyclette que Thibaut Quéré commence réellement sa carrière. S'il ne connaissait pas Paul personnellement, le porte-parole de la FUB partage à la fois son combat et son âge, 27 ans.
Ça a été un choc pour toute la communauté cycliste et puis bien au-delà en fait, puisque là on est vraiment sur un meurtre intentionnel. Au choc a suivi une grande vague d'émotions populaires, puisque tout le monde, quelle que soit sa pratique du vélo, a un souvenir d'un moment où ça a été dangereux, un moment où on s'est fait frôler. Et puis maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport au fait que nos villes ne sont pas adaptées à autre chose que se déplacer en voiture? Et puis qu'est-ce qu'on répond derrière de tout le système police-justice quand on vient déposer une plainte et que finalement on se fait un peu mettre sur le côté une fois qu'on est arrivé en disant que finalement son cas est pas très important et que bon, on prend la main courante, mais voilà, c'est pas prioritaire. Donc il y a un vrai enjeu systémique de toute la chaîne et c'est au gouvernement avec les communes de se bouger.
Pour le militant, les violences motorisées sont dangereuses justement parce que normalisées. La solution pour les réduire est selon lui de modifier les routes, pensées uniquement pour les voitures. Pour comprendre, son mètre 87 a enfourché son vélo et m'a montré des exemples dans le nord de Paris.
Du stationnement des deux côtés, pas de piste cyclable. Ça, c'est vraiment le profil de rue historique de Paris. Donc en fait, c'est un truc très sans règles. Enfin, il y a des règles, hein, mais c'est vraiment la loi du plus fort.
Cette balade, ça a été un roman, hein, et on a eu plein d'émotions différentes. Et là, enfin, on atterrit sur un moment de grande respiration, les quartiers des quais du canal Saint-Martin, puisqu'on est sur une vélorue. On fait en sorte que le transit des véhicules, des voitures, soit réduit au maximum. Donc là, on voit très peu de voitures qui passent, mais en revanche, beaucoup de cyclistes et beaucoup de piétons. On a toute une voirie centrale maintenant qui est dédiée aux circulations à vélo, avec des larges passages piétons, des larges trottoirs. Ben là, on voit ce que pourrait être le profil en fait un peu de beaucoup de villes, petites comme grandes. Ici, on est au cœur de la capitale, avec une relibération de l'espace public pour tous les usages. Donc espérons qu'on voit de plus en plus d'aménagements de ce type-là en France.
Des aménagements prisés, mais extrêmement coûteux, les restrictions budgétaires des collectivités locales demandées par le gouvernement pourraient freiner la transformation cycliste du pays.
C'était le reportage de la rédaction consacré à Thibaut Kéré, Eva Kling. L'a signé une femme inspirante, Simone Veil. Nous avons décidé de consacrer toute cette matinale à Simone Veil, évoquer son souvenir, son testament, ses mots, car un inédit vient de paraître aux éditions Albin Michel pour les générations futures. Dans quelques minutes, on évoquera ce testament et cette vie. Il est 7h30. Sur France Culture. Le journal de l'écho, Luc Chemla, bonjour Luc.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. C'est un mastodonte dans le monde du luxe LVMH. S'il est surtout connu pour la haute couture, l'horlogerie et le champagne, le groupe de la famille Arnault diversifie petit à petit ses activités et investit massivement dans le sport. C'est l'objet du décryptage écho de ce matin. Bonjour François Chagnot.
Bonjour Luc.
Au-delà de son partenariat avec les Jeux Olympiques de Paris, LVMH a annoncé ces dernières semaines des centaines de millions d'euros d'investissement dans la Formule 1, mais aussi dans le Paris FC, le petit cousin du célèbre club de foot du PSG. Mais François, pourquoi le numéro 1 mondial du luxe s'intéresse-t-il autant au sport ?
Parce que le sport, c'est à la fois une formidable caisse de résonance marketing et un puissant relais d'influence. Exemple avec la Formule 1. LVMH va y investir une petite centaine de millions d'euros chaque année. Ce contrat de 10 ans va lui permettre d'afficher ses marques de champagne, de montres, de vêtements sur les circuits et donc de les incruster dans les rétines d'1,5 milliard de téléspectateurs. Cette audience colossale se trouve surtout en Chine, au Brésil, en Inde, des marchés juteux donc, où on trouve une classe moyenne supérieure jeune, aisée et friande de produits de luxe. Bien sûr, LVMH sait pertinemment qu'il ne va pas convertir tous ses fans de F1 en clients, mais là n'est pas l'enjeu, explique Jean-Noël Capferrer, il est professeur émérite de marketing à HEC.
La désirabilité d'une marque est fonction de la différence entre le pourcentage de gens qui connaissent cette marque et le pourcentage de gens qui peuvent l'acheter. Plus le luxe se diffuse, plus il devient accessible, plus il a besoin d'étendre la connaissance et l'émotion attachée à sa marque. C'est la base du marketing du luxe, c'est créer une demande que l'on ne va pas complètement satisfaire, parce qu'à ce moment-là, il y aurait la perte d'exclusivité.
Cet investissement dans la Formule 1 reflète également la volonté de LVMH de conquérir le secteur du divertissement.
Et d'ailleurs, François, c'est ce que montre également le rachat du Paris FC.
En effet, la famille Arnault négocie en ce moment le rachat du club de foot en partenariat avec le groupe autrichien Red Bull. Le but, faire monter le Paris FC, actuellement leader de Ligue 2, en première division et pourquoi pas un jour rivaliser avec son titanesque cousin, le Paris Saint-Germain. Mais un club de foot, ce n'est pas rentable en soi, explique le chercheur en management du sport à l'université de Lausanne, Jérémy Moulard.
Généralement, l'intérêt financier est ailleurs. En termes d'image, c'est de pouvoir s'associer à une marque qui est la ville de Paris. Je pense que c'est une vraie réussite, l'association entre LVMH et les JO. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une volonté massive de vouloir développer des sujets dans le sport, parce qu'il y a des cibles potentielles à différents niveaux, aussi bien médiatiques qu'au niveau des dirigeants, au niveau des joueurs et au niveau des spectateurs et téléspectateurs qui ont aujourd'hui en fait une vision mondiale.
Enfin, si la famille Arnault rachète et parvient à faire grandir le Paris FC, le clan de milliardaires pourra raconter une belle histoire au public comme aux politiques. Celle d'un géant qui tend la main à un nain sportif pour le transformer en machine à gagner. Là encore, tout est une question de récit et d'image.
Merci beaucoup François Chagnot et on peut d'ailleurs retrouver votre décryptage écho à la page du journal de l'écho sur le site internet de France Culture. L'actu économique en bref, Il est le premier promoteur immobilier français. Nexity annonce une baisse de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année, mais aussi l'approbation de son plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit 275 licenciements. Le promoteur a engrangé 2,57 milliards d'euros de chiffre d'affaires entre janvier et septembre, soit 13% de moins que lors de la même période l'an dernier. Du côté de Nestlé, des suppressions d'emplois sont aussi envisagées, selon nos confrères des Échos. La filiale tricolore du leader mondial de l'industrie agroalimentaire a prévu de réduire de 30% ses équipes commerciales sur le terrain. Près de 150 postes sur 462 seraient supprimés. Il envisage également l'externalisation de la commercialisation de plusieurs de ses marques, dont Nesquik et Maggi. Alors que le projet de loi finances 2025 est actuellement débattu à l'Assemblée nationale, Vinci l'annonce, si ce PLF est voté en l'état, il évalue à environ 400 millions d'euros la charge supplémentaire de son imposition dans le cadre de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices français des grandes entreprises prévues dans le texte initial. Le géant français du BTP qui annonce également un chiffre d'affaires en hausse de 1,4% au troisième trimestre. Le MEDEF tenait lui hier une conférence de presse. Il a annoncé le lancement officiel d'un front économique associant patrons, économistes et groupes de réflexion. L'objectif, je cite, remettre de la rationalité dans le débat économique. Le FMI appelle la communauté internationale à soutenir le Liban pour atténuer le choc économique. Le Fonds monétaire international appelle notamment à apporter des dons. Organisée hier à Paris, la conférence internationale sur le Liban a, elle, permis de récolter plus de 800 millions de dollars d'aide humanitaire et 200 millions de dollars d'aide pour l'armée. Et en marge d'une réunion du Fonds monétaire international, avait lieu hier à Washington une réunion des ministres des Finances du G20. Ils confirment leur engagement à coopérer pour taxer les super-riches. Nous continuerons à travailler ensemble à la mise en place d'un système fiscal international plus équitable, plus inclusif, plus stable et plus efficace, annonce leur communiqué. Et puis Londres veut doper les investissements. La ministre britannique des Finances annonce un changement des règles budgétaires. L'idée, c'est d'accroître sa capacité à emprunter afin d'injecter des milliards de livres dans l'économie britannique. Rachel Reeves prévient toutefois que des coupes dans les dépenses et des hausses d'impôts sont inévitables.
Dans le prochain journal, autrement dit le journal de 8 heures, Luc, de quoi parlera-t-on ?
Eh bien, Margot Delpierre reviendra sur la très attendue présentation du plan national d'adaptation climatique. Il sera dévoilé aujourd'hui par Michel Barnier, l'occasion de s'intéresser aux idées du Premier ministre en matière d'écologie. Vous entendrez également que l'Organisation météorologique mondiale vient de conclure un partenariat inédit avec la Fédération internationale de ski. Et puis, reportage à suivre en Géorgie, à la veille des élections législatives dans ce petit état du Caucase qui a aspire à rejoindre l'Union européenne.
Merci beaucoup, Luc Chemla. 7h36, on file à l'étranger.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Avec votre revue de presse internationale, Héloïse Roger, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Vous revenez aujourd'hui sur une mobilisation extrêmement importante en Algérie, celle des étudiants en médecine.
C'est une mobilisation qui dure depuis près de 10 jours et qui s'étend à travers tout le pays. Des dizaines et des dizaines de vidéos comme celles que l'on entend circulent sur les réseaux sociaux. Ils sont à Alger, Oran, Tizi Ouzou, Batna ou encore Constantine. Ils sont des milliers d'étudiants algériens en blouse blanche postés devant leur faculté, brandissant des affiches et des pancartes pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils travaillent. Le journal Touala évoque un malaise si grand que l'éruption de la colère était devenue inévitable. Un ras-le-bol unanime couché sur le papier dans un communiqué publié par le collectif national des étudiants en sciences médicales et dont se fait l'écho Algérie 360. On peut y lire les revendications multiples et qualifiées d'urgentes. Ils dénoncent le manque d'infrastructures, une surcharge des effectifs impactant la qualité des enseignements. Le média rapporte aussi un système de bourses et d'indemnités de stage jugé insuffisant. Les étudiants s'inquiètent également de leurs perspectives professionnelles dans le pays. Le nombre de postes de spécialistes n'est pas en adéquation avec le nombre de diplômés. Cette disparité entre les places disponibles et les besoins réels des hôpitaux crée un climat d'incertitude quant à leur avenir, évoque Algérie 360. Mais ce qui a aggravé cette situation déjà difficile, c'est le gel de l'authentification de leurs diplômes. Les étudiants se sentent discriminés par une telle mesure, relate Touala. Ce gel empêche leur reconnaissance à l'étranger, un moyen pour le pays de stopper la fuite des cerveaux. Mais défendu par Rachid Belhadj, le président du syndicat national des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires.
Concernant l'authentification de leur diplôme, c'est un droit légitime, mais ce problème s'est déjà posé, il est actuellement posé avec le paramédical. On ne leur donne pas leur diplôme. C'est cette crainte. Ce qui est dangereux, c'est que nos cadres médecins, nos futurs médecins spécialistes, tout le monde se prépare pour partir à l'étranger. C'est la course de partir à l'étranger. On ne va pas former pour l'étranger. Ça, c'est des choses qui n'est pas acceptable. On doit former pour notre pays, pour notre population, pour notre système de santé.
En début de semaine, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a reçu les étudiants. Selon le journal francophone TSA, 6 mesures ont été actées, avec entre autres la hausse du nombre de postes de spécialité et la formation d'un groupe de travail pour revoir à la hausse la bourse des étudiants. Concernant le gel des diplômes, le quotidien L'Expression rapporte que le ministre a assuré qu'il sera levé lorsque des solutions seront proposées pour traiter et atténuer ce phénomène d'exil des médecins fraîchement diplômés, sans donner de détails ni de délais. Dans l'Algérie aujourd'hui, on raconte même que Kamel Badari aurait proposé l'idée aux jeunes médecins un dédommagement financier à verser s'ils décidaient de quitter le pays, proposition qui a reçu le veto des étudiants. Des petites réponses face aux grandes préoccupations des étudiants en médecine pointe Twala, une série de mesures jugées insuffisantes par les étudiants qui poursuivent leur mobilisation, explique l'Algérie aujourd'hui, et qui dans un article raconte les échanges avec ces jeunes manifestants devant la faculté de Ben Aknoun à Alger. Le ministre a tenu un discours de Taswif, explique un représentant des étudiants. Taswif qui peut se traduire par une série de promesses sans lendemain. La mobilisation n'est donc pas prête de prendre fin.
Et puis au Canada, Héloïse, le Premier ministre annonce une baisse importante du seuil d'immigration.
C'est un tournant radical et un rétropédalage qu'amorce Justin Trudeau. Aujourd'hui, j'annonce que nous allons réduire le nombre d'immigrants que nous accueillons au cours des 3 prochaines années, ce qui entraînera une pause dans la croissance démographique au cours des 2 prochaines années. Cette mesure s'ajoute à celle que nous avons déjà annoncée pour plafonner les permis d'études internationaux et réformer le programme des travailleurs étrangers temporaires. Toutes ces mesures sont mises en œuvre dans un seul but, stabiliser notre croissance démographique, pour donner le temps de rattraper notre retard. La BBC précise que le Canada va donc réduire le nombre de résidents permanents en 2025, passant d'un objectif de 500 000 à 395 000 personnes, soit une baisse de 21%. Un plafond à 5% de la population canadienne a été fixé pour les travailleurs étrangers temporaires d'ici 2 ans. Il représentait 6,5% de la population en mars dernier. Sur Radio-Canada, on peut lire la justification du Premier ministre. Ce n'est pas un constat d'échec, mais bien un signe de flexibilité pour remédier aux défis auxquels fait face la société canadienne. Pour Justin Trudeau, c'est temporaire, le temps pour le Canada de rattraper son retard, de réaliser les investissements nécessaires dans le secteur de la santé, du logement, des services sociaux et accueillir de nouveaux. La BBC rapporte que ces objectifs de baisse de l'immigration ont été critiqués de toutes parts. L'association Migrant Rights Network, par exemple, dénonce dans une lettre ouverte destinée à Justin Trudeau et son ministre de l'immigration, Mark Miller, les accusations injustifiées envers les migrants d'être responsables de la crise de l'accessibilité au Canada. Les entreprises sont-elles aussi montées au créneau concernant les restrictions du nombre de travailleurs étrangers temporaires sur le sol canadien? Mais dans le Journal du Québec, une interview de Mark Miller évoque une ouverture à de possibles ajustements pour permettre la venue d'étrangers dans les secteurs en tension. Le quotidien précise que plus de 139 000 postes sont toujours vacants au Québec et que des entreprises pourraient même fermer leurs portes faute de bras.
Merci Héloïse Roger pour cette revue de presse internationale. Dans quelques instants, nous vous proposons, comme vous le savez, des matins avec Simone Veil, cette personne inspirante. Nous serons en compagnie d'Annick Cojon, grand reporter au Monde, et Pierre-François Veil, président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Ce vendredi, notre débat critique portera sur 2 mangas qui abordent la condition féminine au Japon, Magicien A de Natsuko Ishitsuyo et Shinkyari de Murasaki Yamada.
Marie Sorbier.
Puis nous recevons la chanteuse, compositrice et interprète Zao de Sagazan qui vient présenter la réédition de son album La Symphonie des Éclairs avec 7 nouveaux titres qui sortent ce vendredi.
Les Midis de Culture, aujourd'hui à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Françoise Sagan ne disait jamais de bêtises et en plus, elle le disait avec beaucoup d'esprit.
J'ai pas écrit un roman depuis 5 ans. C'est quand même des chances que j'ai changé entre 25 et 30 ans. Hein.
C'est pourquoi nous avons décidé de réécouter en archive ce qu'elle avait à dire.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Durant 6 épisodes d'une série qui nous raconte non seulement qui elle était, mais aussi à quoi ressemblait la France de son époque, depuis les années de Gaulle jusqu'aux années Mitterrand.
Salle des archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Je me sens toujours un peu, je dirais pas marginale, tenant à ne pas pouvoir être classée.
Le matin de France Culture, Guillaume Erner.
Un matin avec Simone Veil, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. En très bonne compagnie, avec deux personnes que j'aime beaucoup, je vais vous présenter immédiatement Pierre-François Veil. Bonjour, vous êtes le Benjamin des trois fils de Simone Veil. Vous présidez la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Auparavant, vous avez œuvré pour la Fondation Yad Vashem, qui est celle qui instruit les dossiers des justes en France. Annie Cogent, vous êtes grand reporter au Monde. Vous avez notamment consacré un ouvrage, Simone Veil et les siens, un ouvrage publié chez Grasset, où on trouve beaucoup de photos, des photos très émouvantes, donc de Simone Veil et les siens. Vous avez également consacré un roman graphique à cette femme. Vous l'avez souvent rencontrée. Comment était-elle ?
Quand je pense à Simone Veil, je pense d'abord à son visage. C'est vrai, c'est son visage qui m'apparaît avec ses yeux si clairs, presque transparents, et puis ce sourire qui était nimbé de mystère, ce sourire qui n'était pas joyeux, ce sourire qui était presque comme une concession à la vie, aux usages, à ses proches, ce sourire qui cachait beaucoup de tumultes, de fractures, qui disait beaucoup d'elle en même temps et qui me fascinait. Et puis c'est une allure, c'est une dignité, c'est une. Elle avançait avec ce, effectivement, ses yeux clairs et cet air bravache, donnant l'impression qu'elle était très sûre d'elle, alors qu'en fait elle était moins que ça, sans doute, moins qu'il en apparaissait. Mais il y avait cette certitude aussi de connaître sans doute mieux que quiconque ce que cachait l'âme humaine. La nature humaine. Et je l'ai rencontrée d'abord pour, évidemment, pour le travail. En 93, elle revenait au gouvernement et moi, j'ai arrivé dans le poulet des grands portraits au Monde et on m'a confié de la mission de faire un grand portrait. À ce moment-là, on faisait vraiment des portraits. On avait eu un mois pour le faire et c'était donc très important. J'étais horriblement intimidée et je le faisais avec ma consoeur Agathe Lejard et je pense qu'on a rencontré d'abord une trentaine de personnes pour cerner le personnage avant d'oser demander un rendez-vous. Et elle nous a invités un soir rue de Ségur, avenue de Ségur, dans son ministère, et on a parlé. Et réellement, une journaliste ne devrait pas dire ça, mais j'étais totalement subjuguée, parce qu'elle nous parlait vrai, elle nous parlait franchement, elle n'était absolument pas dans la séduction, il n'y avait pas ce côté enjôleur qu'ont quelquefois les ministres quand ils veulent se faire connaître et justement, qui veulent plaire. Mais on était tellement loin de ça, on était tellement loin des techniques de communication, de j'ai envie de me montrer sur mon bon aspect, et cette façon qu'elle a eue de nous parler simplement, bah ouais, de son histoire, de la Shoah, bien sûr. Et puis après, de ce qu'elle voulait faire, de cette détermination qu'elle avait. Pourquoi elle revenait au gouvernement, c'était pas nécessaire, au fond, on pourrait se dire, elle était tellement populaire. Entre-temps, il y avait eu évidemment l'avortement et puis son grand passage si marquant au Parlement européen. Mais elle revenait et elle disait, on lui demandait, mais vous êtes tellement populaire, est-ce que c'était nécessaire? Elle disait, et là, c'est Pierre-François qui va pouvoir répondre, parce que elle disait, justement, cette popularité, mes fils me disaient, tu peux pas la garder pour toi, enfin, comme quelqu'un qui garderait son magot, qui garderait son trésor et qui mourrait avec son trésor sans rien en avoir fait, voilà. Et donc, elle était décidée à apporter effectivement sa contribution et faire la différence, tellement sûre que si quelque chose était fait qui ne lui plaisait pas, eh bien, elle claquerait la porte.
Vous lui disiez ça à votre maman, Pierre-François Veil?
Bonjour Guillaume Erner, merci de cette émission et merci de me recevoir avec Annie Cogent, pour laquelle, je dois le dire tout de même, maman avait beaucoup d'affection. C'était pas toujours vrai pour l'ensemble des gens qu'elle rencontrait. Elle avait en général de la considération, ou en tout cas elle la manifestait. Mais pour Annie Cojan, elle avait beaucoup d'affection, et je tenais à le dire. Oui, c'est vrai que mon père, mes frères et moi, nous disions à maman que le fait d'être, je sais pas s'il faut utiliser le mot d'icône, mais le fait d'être une icône devait l'inciter éventuellement à rentrer dans le débat et à dire ce qu'elle pensait, si elle avait quelque chose à dire sur tel ou tel sujet, et non pas simplement à rester comme une jolie potiche installée sur le dessus de la cheminée.
Et donc, celle qui était votre maman, comment était-elle au quotidien ? Je sais que vous êtes un homme pudique et que je ne veux pas vous faire violence.
Écoutez, au quotidien, elle était comme certainement comme toutes les mères. Alors, tout le monde a évidemment pas la chance de pouvoir venir à une matinale de Guillaume Erner pour parler de sa mère. La plupart du temps, les gens donnent 70 euros à un psychanalyste une fois par semaine pour parler de leur mère. Je vous remercie de cette occasion qui m'est donnée. Elle était une mère comme les autres, attentive, s'intéressant à l'éducation de ses enfants. Je dois dire probablement plus aux valeurs morales qu'elle souhaitait nous communiquer qu'à nos résultats scolaires. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas si elle a été gâtée du point de vue des valeurs morales, mais pour ce qui est des résultats scolaires, nous ne l'avons pas déçue.
On va entendre Simone Veil, elle, comment elle se voyait. C'était au micro de Jacques Chancel dans un radioscopie.
Je crois que je suis sérieuse, avec le manque d'humour que ça comporte, qui est une chose qu'on me reproche dans ma famille. Je crois que je ne peux pas prendre les choses à moitié. Les petites choses même, j'ai envie qu'elles soient bien faites et qu'elles soient vues au fond. Au fond, j'aurais aimé être une femme superficielle, j'aurais aimé être frivole, je n'y arrive pas et j'arrive pas à me désintéresser et je n'arrive pas surtout à ne pas me passionner.
La voix de Simone Veil, Annick Cojan.
Ça me fait rire quand elle dit « j'aurais voulu être une femme frivole ». Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai l'impression que c'est presque un jeu de mots, parce que non, bien sûr, elle était tellement profonde, elle était grave en effet. Je pense qu'elle aimait rire, parce qu'elle avait cette chance d'être entourée d'enfants et d'un mari drôle, et en tout cas le mari vraiment plein d'humour et très facétieux, donc quelquefois peut-être ça pouvait la choquer, mais en tout cas je l'ai vu éclater de rire quand même. Je parlais de son sourire qui était pas si joyeux et qui était très loin du rire, mais malgré tout, quand ses proches la faisaient rire, elle pouvait se donner. Elle aimait aussi être entourée de femmes. Elle avait des copines. Elle aimait ses après-midi, ses visites de galeries, de cinéma, quelquefois, entre filles. Et elle utilisait même l'expression, donc elle pouvait de temps en temps quand même céder à une sorte de légèreté, heureusement.
Justement, on a retrouvé une archive où elle explique la nécessité de rire. C'était au micro de Kathleen Evin.
Cette apparence que nous donnons d'être complètement dans la vie normale et même peut-être d'avoir un peu plus de vitalité. Je dirais que chaque fois entre chiens déportés, nous nous rencontrons, les gens sont étonnés parce qu'on raconte des histoires absolument horribles en riant et en étant, on a à la fois besoin de le prendre en caricature, de dénoncer pour pouvoir supporter certains souvenirs, mais aussi parce que, au fond, nous avons toujours l'impression d'être en survie, que nous avons une grande vitalité. Mais si nous nous retrouvons entre nous, se crée un monde clos, où on se comprend par une allusion, par gestes tout à fait anodins. Vous parliez du tatouage. J'ai toujours le mien, on ne le voit presque pas, mais que les camarades voient et vous disent « Ah ben, j'ai un numéro très proche du tien, on devait être dans le même convoi, le convoi d'après. » Et puis surtout une façon de percevoir la vie qui fait que beaucoup de choses qui paraissent si importantes aux autres ne nous apparaissent pas.
La voix de Simone Veil. Et si j'ai décidé de consacrer ces matins à Simone Veil, c'est en raison de la publication d'un inédit pour les générations futures aux éditions Albin Michel. Et j'ai demandé à une merveilleuse comédienne, Sophie Carité, qui fait un spectacle actuellement au studio Héberto à Paris, dans le 17e arrondissement, du 5 novembre au 15 janvier. Je lui ai demandé de lire des extraits de ce discours pour les générations futures. Voici un extrait.
Nous étions un petit nombre et nous nous demandions où étaient tous ceux qui étaient arrivés dans le même train et qui avaient disparu. Notamment, en dehors des hommes systématiquement séparés, toutes celles qui avaient de jeunes enfants ou des parents d'un certain âge. Quand je dis « d'un certain âge », c'était aussi des femmes de 40 ans qui en paraissaient un peu plus ou qui, fatiguées, avaient choisi de monter dans les camions. C'était un cas assez fréquent. Nous commencions donc à nous inquiéter de leur sort, mais c'est lorsqu'on nous a rasés, qu'on nous a coupé les cheveux, qu'on nous a tatoués, c'est à ce moment-là que, nus et tatoués, nous sommes devenus vraiment inquiètes. Nous avons demandé à celles qui étaient préposées à ce genre d'activité ce qu'étaient devenus les absents. Et très rapidement, on nous dit « Ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, regardez. » On désignait une petite fenêtre dans un coin. « Vous voyez la fumée ? Eh bien, voilà, c'est terminé. Ils ont été gazés. La fumée que vous voyez, ce sont déjà ceux qui ne sont plus là. »
Un extrait de « Pour les générations futures », lu donc par cette comédienne Sophie Carité. C'est compliqué à Nick Cogent de reprendre la parole après ces mots. C'est une expérience de la déportation que Simone Veil a voulu partager, qu'elle a partagé avec vous.
Oui, qu'elle partageait très bien. C'est important qu'elle parle de ça et elle le faisait toujours avec gravité, avec douleur, avec responsabilité, parce que c'était tellement important de témoigner. Elle accordait, elle pensait que c'était une de ses missions, sans doute, de le faire. Alors elle a toujours dit que les déportés avaient toujours voulu parler, sortir de la guerre. Évidemment, simplement, on ne pouvait pas les entendre. On n'y arrivait pas, on n'avait pas envie pour certains. Mais très clairement, c'était trop difficile, y compris pour les très proches, y compris pour les familles. Elles savaient que c'était douloureux. Et puis, il y avait ceux aussi qui demandaient des détails sordides, qui l'horrifiaient. Et puis, ceux qui détournaient la tête. Donc, finalement, beaucoup de déportés se sont tus. Et ça n'est que petit à petit que, finalement, ils ont pu parler, on les a entendus. Et c'est est advenu ce qu'Annette Viervoorka appelle l'ère du témoin. Mais pour elle, c'était fondamental de le faire et d'inciter les autres d'ailleurs à le faire.
De le faire en public et en famille. Simone Veil au micro de Philippe Bertrand.
Je crois qu'il faut aussi, il faut leur en parler en même temps. Il ne faut pas le leur imposer. Moi, je vois sur mes trois fils, le plus jeune a toujours été beaucoup plus intéressé. Il m'a posé beaucoup plus de questions et a été plus intéressé sûrement. Il y en a un qui, lui, alors affectivement, le supportait très mal. Il m'a toujours dit que même si nous organisions un voyage à Auschwitz, il n'irait pas, il ne le supporterait pas. Et je crois que ce sont des choses qui sont... l'affectivité se manifeste différemment. Et puis surtout, ils appartiennent à une génération où, en famille ou en amie, moi je vois, j'ai une de mes belles-sœurs, une sœur de mon mari qui a été déportée. Son mari est comme le mien, il ne supporte pas. Et chaque fois que nous en parlions, il y avait toujours quelqu'un pour nous couper la parole. Et mes beaux-parents, donc c'était leur fille, supportaient très mal qu'on en parle aussi. Je crois que pour les proches, c'est souvent très pénible. Alors maintenant, pour les nouvelles générations, comme c'est devenu quelque chose de plus intégré dans la vie française, ils le supportent mieux.
La voix de Simone Veil, votre maman, Pierre-François Veil, vous êtes le Benjamin de ses fils. Vous avez consacré une bonne partie de votre vie à la mémoire de la Shoah, puisque vous présidez la Fondation pour la mémoire de la Shoah. On sait à quel point cette parole n'a pas été entendue immédiatement, et donc c'est à la fois au fils de Simone Veil, mais aussi au président de la Fondation de la Shoah que je m'adresse.
Je crois que c'est dans la conférence qu'elle avait donnée à l'ENS, dont est tiré l'ouvrage pour lequel vous avez voulu nous réunir, que maman raconte que dans les années 80, un jour où elle parlait précisément de la Shoah, Et elle s'étonnait du temps qu'il avait fallu pour pouvoir en parler. Un rabbin lui avait dit, mais vous savez, il faut 40 ans, comme il a fallu 40 ans d'errance dans le désert pour arriver à la terre d'Israël, après la sortie d'Égypte. Et ce 40 ans, c'est pas un hasard, c'est le passage de deux générations. Il faut du temps pour pouvoir parler des choses. Effectivement, comme maman l'exprime très bien dans le passage que vous avez que vous avez bien voulu reproduire, quand elle dit que personne ne voulait entendre, il faut pas seulement entendre que la société française ne voulait pas entendre. Oui, c'est vrai, la société française ne voulait pas entendre, mais les proches aussi ne voulaient pas entendre, les familles ne voulaient pas entendre. Il faut comprendre que c'était en réalité pour eux insupportable. Il faut comprendre ce que ça peut être que pour des parents qui, par le hasard de la vie, n'ont pas été arrêtés, que de devoir se confronter après le retour des camps à des enfants qui, eux, ont été arrêtés et ont survécu. C'est insupportable, c'est une culpabilité épouvantable. Et tout le monde était pris dans ces relations. Et puis, et maman le dit aussi dans d'autres interventions, pour survivre, simplement pour survivre, il fallait regarder devant. Alors, quand les anciens déportés se retrouvaient entre eux, et ça m'est arrivé d'assister à de telles réunions, soit de petits groupes, soit de groupes plus importants, effectivement, ils en parlaient. Mais sinon, c'était très difficile.
On va écouter la voix de Simone Veil.
On regrette toujours quelque chose. On a quelquefois envie de se dire qu'on aurait envie d'avoir une vie totalement différente, oui.
La voix de Simone Veil pour les générations.